du conscient, mes questions.
J'ai une question hors du texte.
Bien, qu'est-ce que c'est?
J'aurai une explication. Dans prières et méditations, il y a cette phrase. Et les heures s'évanouissent comme des rêves invécus. Et les heures s'évanouissent comme des rêves invécus.
Comme des rêves invécus. Et les heures s'évanouissent comme des rêves invécus. Alors? C'est une expérience. Tu sais ce qu'un c'est un rêve invécu? Je n'ai pas pris le mot de rêve dans le sens des rêves qu'on fait la nuit. J'ai pris le mot de rêve dans le sens de quelque chose que l'on a construit dans la partie la meilleure et la plus clairvoyante de son être. Quelque chose qui est un idéal qu'on voudrait voir se réaliser. Quelque chose qui est plus haut, plus beau, plus noble, plus merveilleux que tout ce qui a été créé. Et que on a un pouvoir d'imagination ou de création quelque part dans la conscience et qu'on bâtit ça pour que cela se réalise. Et puis, pour une raison quelconque, cela ne se réalise pas. Ou le monde n'était pas prêt, ou peut-être la formation n'était pas suffisante, mais cela ne se réalise pas. Et alors, les heures passent stériles. Improductif. Inutile. Vain, vide. Elles semblent s'évanouir parce qu'elles n'ont aucun résultat et aucune utilité. Et alors c'est ça que j'ai dit. Et les heures s'évanouissent comme des rêves invécus. Voilà ce que c'est. C'est tout? Compris? J'ai deux questions. Une qui se rapporte directement au texte. Il y a dans le texte une phrase que moi j'ai notée au passage où il est dit: Voilà. Le mystère du corps du divin et son attraction qui est l'appel du divin joueur de flûte, la contrainte subjugante de celui qui est toute beauté. Cela nous ramène à la, comment l'appeler, le symbole de Krishna et de Radha. Krishna est celui dont Sri Aurobindo parle. Le divin joueur de flûte, c'est-à-dire le divin immanent et universel qui est le pouvoir d'attraction suprême. Et l'âme, la personnalité psychique qui si on appelle Radha, et qui répond à l'appel du joueur de flûte. Alors on m'a demandé de parler, de dire quelque chose ce soir de cette conscience de Radha. C'est-à-dire, au fond, de la manière dont l'âme individuelle répond à l'appel du divin. Mais il se trouve que c'est justement ça que Sri Aurobindo a décrit dans ce que nous venons de lire. Et que c'est cette capacité de trouver l'ananda en toute chose, par l'identification avec la présence divine unique, et le don total de soi à cette présence. C'est justement ce qu'il décrit ici. Alors je ne pense pas que j'ai grand chose que je puisse ajouter à cela. qui serait ce que je pourrais dire, ce serait des limitations ou des diminutions de la totalité de cette expérience. Ça a la capacité de changer tout en une extase perpétuelle parce que au lieu de voir les choses dans leur apparence discordante, on ne voit plus que la présence, la volonté et la grâce divine en toutes choses, et chaque événement, chaque élément, chaque circonstance, chaque forme se change en une manière, un détail à travers lequel on peut s'approcher plus intimement et plus profondément du divin. Les discordances disparaissent, les laideurs s'évanouissent, et il n'y a plus que la splendeur d'une présence divine dans un amour rayonnant en toute chose. Il est évident qu'au point de vue pratique, il faut être capable de rester dans une hauteur constante et inébranlable pour pouvoir être dans cet état-là sans avoir des conséquences assez fâcheuses. C'est probablement pour ça que ceux qui voulaient vivre cet état-là se retiraient du monde et avaient le contact universel à travers la nature. Je dois dire, sans vouloir être désagréable pour les hommes, que c'est infiniment plus facile de réaliser cet état de conscience quand on est entouré d'arbres, de fleurs, de plantes et même d'animaux que d'êtres humains. Mais c'est plus facile, mais ce n'est pas indispensable. Et si on veut que l'état soit vraiment intégral, il faut pouvoir l'avoir à tout moment, en présence de n'importe qui et de n'importe quoi. Il y a d'innombrables légendes comme ça d'histoire, comme celle, par exemple, que nous avons vue dernièrement au cinéma, l'histoire de Prahlad, qui sont comme des illustrations de ça. Et je ne suis pas seulement convaincu, mais j'ai moi-même l'expérience tout à fait tangible que si, en présence d'un danger, d'un ennemi, d'une mauvaise volonté, vous êtes capable de rester dans cette condition et de voir le divin en toutes choses. Eh bien, le danger n'aura pas d'effet. La mauvaise volonté ne pourra rien vous faire. Et l'ennemi, ou il sera transformé ou il s'enfuira. Ça, c'est un fait certain. Mais j'ajoute un petit mot qui est assez important. Il ne faut pas être dans cet état ou avoir cette conscience avec un mobile, parce que c'est une protection, une aide. Il faut l'avoir sincèrement, spontanément, constamment. Il faut que ce soit une manière d'être normale, naturelle, sans effort. Alors c'est efficace. Mais si vous essayez d'imiter le moins du monde le mouvement avec l'idée que vous obtiendrez ce résultat, alors ça ne réussit pas. C'est-à-dire que le résultat n'est pas du tout obtenu. Et alors, dans votre ignorance, vous pouvez vous dire, « Oh, mais on m'a dit ça, mais ça n'est pas comme ça. » Mais c'est parce qu'il y avait une insincérité quelque part. Autrement, si vous êtes vraiment sincère, c'est-à-dire si c'est une expérience intégrale et spontanée, elle est toute puissante. Si quand vous regardez dans les yeux de quelqu'un, vous pouvez y voir spontanément la présence divine, les pires mouvements s'évanouissent. Les pires obstacles disparaissent. Et la flamme d'une joie infinie s'éveille. Parfois dans l'autre aussi bien que dans soi-même. S'il y a dans l'autre la moindre possibilité, une toute petite faille dans la mauvaise volonté, ça resplendit. Quelqu'un a quelque chose à demander sur le sujet?
Mais le sujet de Radha, tout ce que nous savons des Vaishnavisme, il y a toujours la pleurer, le divin n'est pas arrivé, le divin a la troublé. Elle était.
Ça, c'est en route. C'est quand on est en route, c'est quand on n'est pas arrivé au but. Ils ont ça, ils insistent beaucoup là-dessus. parce qu'ils aiment à prolonger la route humaine, simplement. Parce qu'ils jouissent de cette route humaine. Et parce que, comme je l'ai dit, si vous voulez rester dans la vie, en contact avec la vie, il y a une relativité qui doit rester dans l'expérience. Ça leur plaît comme ça. Ça leur plaît de se disputer avec le divin. Ça leur plaît de sentir la séparation. Ce sont des choses qui donnent de l'agrément. Parce qu'ils restent dans la conscience humaine et qu'ils veulent y rester. De la minute où il y a identification parfaite, tout ça c'est parti. Alors, c'est comme si on se privait du plaisir d'une pièce de théâtre. Il y a quelque chose de la vie qui est parti, c'est-à-dire son illusion. Ils ont encore besoin d'une quantité raisonnable d'illusion. Ils ne peuvent pas entrer plein pied dans la vérité. Au fond, pour qu'il n'y ait plus ce sens de séparation, il faut que vous ayez réalisé en vous-même une identité parfaite. Et une fois que l'identité parfaite est réalisée, bien l'histoire prend fin. Il n'y a plus rien à raconter. C'est pour ça qu'on a dit que si le monde, si la création réalisait l'identité parfaite avec le divin, il n'y aurait plus de création. Parce que c'est cette conception-là. Si vous réalisez cette identité parfaite où il n'y a plus de possibilité de distinction, et si l'univers tout entier réalisait cette identité parfaite où il n'y a plus aucune possibilité de distinction, eh bien, il n'y aurait plus d'univers. Ce serait le retour au pralaya. Alors, la solution, c'est de trouver l'ananda même dans ce sens de du jeu et de l'échange et de donner et de recevoir. Et c'est pour ça qu'ils gardent ça. Autrement, dans l'identité, il ne reste plus que l'identité. Si l'identité est complète et parfaite, il n'y a plus d'objectivation. N'est-ce pas? J'ai dit ça quelque part. Quand j'ai parlé de l'histoire de l'amour, je pense que personne n'a fait, je n'en sais rien, probablement très peu de gens, n'ont remarqué la distinction. J'ai dit que ça commence par l'ananda de l'identité et qu'après tout le circuit de la création, ça aboutit à l'ananda de l'union. Eh bien, s'il n'y a pas, il n'y avait pas eu ce circuit, il n'y aurait jamais l'ananda de l'union. Il n'y aurait que l'ananda de l'identité. Il n'y aurait pas, n'ayant pas de circuit, il n'y aurait pas d'union. C'est peut-être un peu subtil, mais c'est un fait. Et c'est peut-être justement pour que cet ananda de l'identité trouve son aboutissement et son couronnement, je peux dire, dans l'ananda de l'union, que tout le circuit a été fait. Mais s'il y a identité parfaite, il ne peut pas y avoir d'union. Le sens de l'union n'existe pas. Il implique nécessairement quelque chose d'autre qu'une identité parfaite. Il peut y avoir une union parfaite, mais il n'y a pas d'identité parfaite. N'essayez pas de comprendre avec les mots et votre tête parce que vous... N'est-ce pas? Les deux mots ont un sens tout à fait, expriment des expériences tout à fait différentes. Et pourtant, le résultat est identique. Mais le second est riche de tout ce qui n'était pas dans le premier. La richesse de toute l'expérience. Toute l'expérience universelle.
Si cette expérience est faite consciemment, alors pourquoi on devient comme un individu ordinaire en pleurant et en faisant toutes sortes de bêtises?
J'entends rien. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'avez pas... Mais c'est inutile, je ne comprends jamais quand vous parlez, je regrette beaucoup. Mais ça m'arrive comme une, n'est-ce pas, comme des vibrations confuses. Ah. Qu'est-ce qu'il dit?
C'est que je dis mal que si cette union...
Si, oui, si cette union... Oui.
L'expérience est faite consciemment. Alors pourquoi on a cette difficulté de trouver, de pleurer, de faire toutes sortes d'émotions qu'on fait dans la vie?
C'est peut-être parce que l'union n'est pas constante.
Mais il est sincère.
Hein?
Il est sincère dans son aspiration. Celui qui cherche.
Celui qui cherche. Radha est sincère dans son aspiration.
Moi, je crois que c'est de la littérature, mon Dieu. C'est. C'est certainement pour vous donner un tableau artistique de la vie humaine telle qu'elle est.
Vaishnavism, the basis Mais
ce sont des gens qui vivent dans le Vita et qui aiment ça. Non, on ne peut pas parler de ça parce que... Justement, j'ai une autre question ici, qui est une toute petite question, mais qui ne manque pas d'intérêt. C'est quelqu'un qui essaie de se préparer à recevoir le supramental. Et dans cette préparation, il est question de prière et de méditation, entre autres choses. Et alors, il y a cette réflexion qui, justement, est une réflexion très franche et que très peu de gens auraient le courage de dire. C'est ceci. Cette personne dit, je me mets à méditer et à prier avec ferveur et ardeur. Mon aspiration est intense et ma prière est pleine de dévotion. Et puis au bout d'un temps plus ou moins long, quelquefois court, quelquefois long, voilà que l'aspiration devient mécanique et que la prière est purement verbale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceci n'est pas un cas individuel, c'est un cas absolument général. J'ai dit ça déjà plusieurs fois, mais enfin c'était en passant, que les gens qui disent qu'ils vous méditent pendant des heures, tous les jours, et qui passent leur journée à prier, moi je réponds, ça doit être les trois quarts du temps absolument mécanique. C'est-à-dire que ça perd toute sa sincérité. Parce que la nature humaine n'est pas faite pour ça, et que le mental humain n'est pas construit comme cela. Pour se concentrer et méditer, il faut faire un exercice que je pourrais appeler musculaire mental. De concentration. Il faut vraiment faire un effort, comme on fait un effort des muscles, par exemple, pour lever un poids. Si vous voulez que la concentration soit sincère et pas artificielle. La même chose avec l'élan de la prière. Tout d'un coup, une flamme s'allume. Vous avez un élan enthousiaste, une grande ferveur, et vous exprimez ça en des mots qui, pour être vrais, doivent être spontanés. Ça doit venir comme une... du cœur, tout droit, sans passer par la tête, avec ardeur. Ça, c'est une prière. Si ce sont des mots qui se cognent dans votre tête, ce n'est plus une prière. Eh bien, ça, si vous n'y jetez pas des aliments dans la flamme, au bout d'un certain temps, elle s'éteint. Si vous ne donnez pas une détente à vos muscles, si vous ne, comment dire, relaxez le mouvement, si vous ne pouvez pas vous détendre, eh bien vos muscles perdent la capacité de la tension. Alors, il est tout à fait naturel et même indispensable que l'intensité du mouvement cesse au bout d'un certain temps. Naturellement, celui qui a l'habitude de lever des poids peut le faire pendant beaucoup plus longtemps que celui qui ne l'a jamais fait. C'est la même chose. Celui qui a l'habitude de la concentration, il peut se concentrer pendant beaucoup plus longtemps que celui qui n'en a pas l'habitude. Mais pour tout le monde, il y a un moment où il faut se laisser aller, se détendre, et pour recommencer. Par conséquent, que ce soit tout de suite, ou que ce soit après quelques minutes, ou que ce soit après quelques heures, si le mouvement devient mécanique, ça veut dire que vous vous êtes détendu et qu'il n'est plus du tout nécessaire de prétendre que vous méditez, il vaut mieux de faire quelque chose d'utile. Vous pouvez, si vous n'avez aucune occasion de faire un peu d'exercice, par exemple, pour contrebalancer l'effet de la tension mentale, vous pouvez lire. Vous pouvez tâcher de noter ce qui vous est arrivé. Et vous pouvez exprimer. Alors ça produit une détente, la détente nécessaire. Mais la durée de la méditation n'a qu'une importance relative et le seul signe certain qu'elle soit, c'est de donner la mesure de votre habitude de l'activité. Naturellement, ça peut augmenter beaucoup, mais ça a toujours des limites. Et au moment des limites, il faut arrêter. C'est tout. Ce n'est pas une insincérité, c'est une incapacité. Ce qui devient insincère, c'est quand vous prétendez que vous méditez, quand vous ne méditez plus. Ou que vous faites une prière comme il y a beaucoup de gens qui vont au temple ou à l'église ou qui font des cérémonies et qui répètent leurs prières comme on répète soit une leçon qu'on a plus ou moins bien appris. Alors ça, ce n'est plus ni une prière, ni une méditation, c'est simplement une profession. Ce n'est pas intéressant. Voilà, maintenant, c'est tout ce que je possède aujourd'hui comme question. Et si vous n'en avez pas à poser, on va passer au silence. Quelqu'un...
À la première partie.
Hein?
Dans la première partie de la question, tu as dit que si on peut voir spontanément le divin dans son ennemi, le seul ennemi, l'ennemi se convertit, n'est-ce pas?
Pas forcément. J'ai dit où il se convertit, où il s'enfuira. Je n'ai pas dit qu'il se convertit toujours. J'ai dit, s'il y a en lui la moindre faille à sa mauvaise volonté, ça entrera. Et alors il peut, n'est-ce pas, être subitement changé ou en tout cas rendu incapable d'agir. Mais s'il n'y a pas ça, eh bien, il s'en ira. Mais il ne pourra rien faire. Ça, ce que j'affirme, c'est qu'il ne pourra rien faire. Et s'il peut faire quelque chose, c'est le signe que l'état de conscience dans lequel on était n'était pas suffisamment pur et total.
Parce que pourquoi existe là tant d'ennemis du divin?
Hein?
Pourquoi existe tant d'ennemis du divin? Parce que le divin pauvre lui-même dans ces ennemis-là.
Je ne comprends pas très bien ta question.
Pourquoi existe-t-il? Pourquoi existe-t-il tant d'ennemis du divin?
Tant d'ennemis du divin?
Parce que les forces de style.
Mais pourquoi est-ce qu'il existe tant d'êtres humains complètement inconscients? Je trouve ça encore bien plus étonnant. Parce que c'est tout simplement un acte d'inconscient. Être l'ennemi du divin n'est pas autre chose que d'être inconscient.
Mon âme, je veux dire, ils auraient dû être convertis puisque le divin peut voir le divin.
Mais pardon, le divin où?
Lorsqu'un homme. Je ne
comprends pas votre raisonnement.
Lorsque l'homme est l'ennemi du divin.
Mais enfin, mettez qu'il y a un homme sur un million. Qui est réalisé en lui cette conscience, il se peut qu'il ait eu un effet sur ceux qui l'entouraient. Et encore, j'ai pris le soin de vous dire que pour que cet état soit réalisé d'une façon parfaite, il faut généralement être dans une solitude. Autrement, il y a trop de choses qui contredisent, il y a trop de nécessité brutalement matérielle qui contredit ça pour que vous puissiez obtenir l'état d'une façon absolument parfaite. Mais si vous l'obtenez d'une façon absolument parfaite, tout ce qui vous entoure nécessairement deviendra divin. Et alors, je ne comprends même pas l'argument.
Il a compris.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il objectivait le divin et il pensait quand quelqu'un est l'ennemi du divin, il est l'ennemi d'une forme divine. Et cette forme divine voit le divin dans son ennemi, par conséquent, l'ennemi doit être converti. C'est ça?
Non, j'ai pas encore saisi.
C'est parfait de ce moment. C'est parfait, mais ça n'existe pas. C'est qu'il n'existe pas.
Non, j'avoue que je ne vous suis pas du tout, ni celui, ni vous, ni vous. Bon Dieu, qu'est-ce que vous voulez dire?
Quand vous avez dit le divin ou, alors tout de suite, j'ai compris. Lui objectivait une forme du divin. Une forme abstraite du divin. Et un ennemi du divin est l'ennemi de cette forme abstraite. Ou elle peut être concrète, mais alors si elle est concrète, on rentre dans ce que vous avez dit. Si elle est abstraite...
Ça devient pire en pire. Forme abstraite du divin. Quoi?
Quand on est l'ennemi du divin, on est l'ennemi de quoi?
Oh. Ça dépend exclusivement de chacun. On est généralement l'ennemi de sa propre conception du divin, et c'est pourquoi il y a des gens qui disent que très souvent le plus grand dévot est celui qui nie le divin. Parce que s'il n'avait pas en lui-même la certitude qu'il existe un divin, il ne prendrait pas la peine de le nier. Et c'est encore plus fort chez celui qui le est. Parce que s'il n'y avait pas loin au-dedans de lui la certitude de l'existence divine, comment pourrait-il le haïr? Et on a symbolisé ça ici dans l'Inde, dans ces histoires du, n'est-ce pas, de celui qui voulait s'identifier à la réalité divine et qui a choisi de devenir son ennemi parce que le chemin était plus direct que le chemin de l'adorateur. Ça, ce sont des histoires connues, ça, ici, dans le... toutes les anciennes légendes indiennes. Mythologie indienne. Eh bien, c'est simplement l'illustration par l'histoire du fait que celui qui ne s'est jamais posé le problème et qui n'a jamais donné une pensée quelconque à l'existence divine est certainement plus loin du divin que celui qui le est ou qui le nie. Parce que on ne peut pas nier quelque chose à quoi on n'a jamais pensé. N'est-ce pas, celui qui dit ou qui écrit ou qui je déclare, je certifie toute mon expérience tente à prouver qu'il n'y a pas de divin, que ça n'existe pas, que c'est l'imagination humaine, une création humaine, etc. Ça veut dire qu'il a déjà pensé au problème d'autres fois. Et qu'il y a au-dedans de lui quelque chose qui est prodigieusement intéressé par ce problème. Quant à celui qui le déteste, alors c'est encore plus, n'est-ce pas? L'ennemi, on n'est pas l'ennemi d'une illusion. Alors, ta question ne tient plus. Parce que peut-être qu'après tout, c'est encore une forme de rencontre qui peut avoir son intérêt. On dit quelquefois en plaisantant mon ennemi intime. C'est peut-être pas tout à fait faux. Il y a peut-être plus d'intimité dans comment comment dire, la haine que dans l'ignorance. On est plus proche de ce que l'on est que de ce que l'on ignore. Ce n'est pas pour recommander la haine, c'est pour ça que je le dis, mais c'est parce que il m'est arrivé très souvent de voir plus d'amour dans un regard ou une expression de fureur et de haine que dans un état absolument terne et inerte. C'est déformé, c'est abîmé, c'est enlaidi, c'est tout ce que l'on veut. Mais il y a quelque chose qui existe, une flamme qui existe. Évidemment. Même dans l'inconscience et l'immobilité, l'inertie complète apparente de la pierre, on peut trouver une éblouissante lumière. Celle d'une présence divine. Mais alors, c'est l'état dont on parlait là. On le voit partout, on le rencontre partout. Et d'une façon tellement multiple et merveilleusement harmonisé que toutes ces difficultés disparaissent. À vrai dire, pour être pratique, on pourrait exprimer le problème comme ça. Si le divin n'avait pas conçu un état progressif de sa création, on aurait pu, dès le début, avoir une condition béatifique, immobile et inchangeable. Mais de la minute où, comment expliquer, je ne sais pas, du fait que l'univers devait être progressif, eh bien, l'identité parfaite, la béatitude de cette identité, la pleine conscience de cette identité, devait nécessairement être voilée, autrement rien n'aurait jamais bougé. On peut concevoir un univers statique. On pourrait concevoir quelque chose qui est tout en même temps et à la fois. Qu'il n'y ait ni temps, qu'il n'y ait seulement qu'une sorte, une espèce d'espace, d'objectivation. Mais pas un déroulement. pas que les choses se manifestent progressivement l'une après l'autre selon un rythme spécial, qu'elles sont toutes manifestées en même temps à la fois. Alors, tout serait dans un état béatifique et il n'y aurait pas d'univers comme nous le voyons. Il manquerait un élément de déroulement qui constitue ce que ce dans quoi nous vivons maintenant. Alors, une fois qu'on admette ce principe, que l'univers est progressif, que le déroulement est progressif, qu'au lieu de percevoir tout ensemble et d'un seul coup, la perception est progressive. Alors, tout prend place là-dedans. Et forcément, vers la perfection future doit être pressenti comme quelque chose de supérieur à ce qui était auparavant. La réalisation vers laquelle on tend doit nécessairement paraître supérieure à celle qui a été faite auparavant. Et ça ouvre la porte à tout. Toutes les possibilités. Sri Aurobindo a dit ça souvent. Mais ce qui paraissait beau, bon, même parfait, et merveilleux et divin, à un moment donné de l'univers, ne peut plus le paraître maintenant. Et ce qui nous paraît à nous beau, merveilleux, divin, et parfait maintenant sera une obscurité dans un certain temps. C'est comme il disait aussi les dieux qui étaient des dieux tout-puissants à une époque. Ils appartiennent à une réalité inférieure aux dieux qui se manifesteront demain. Et ça, c'est le signe de que l'univers est un univers progressif. Mais ça a été dit, ça a été répété, mais on ne comprend pas. N'est-ce pas, quand il est question de toutes ces grandes époques. Ces époques, c'est comme une diminution à la dimension humaine du progrès universel. C'est pourquoi, si on entre dans l'état où tout, tel que ça est, paraît parfaitement divin, nécessairement, on sort du même coup de la marche universelle. Et c'était ça que des gens comme le Bouddha ou Shankara avaient compris, ils ont exprimé à leur manière, que si on pouvait réaliser l'état où tout vous paraît parfaitement divin ou parfaitement parfait, nécessairement vous sortez du mouvement universel et vous entrez dans le non manifesté. C'est exact. C'est comme ça. Pour eux, ils étaient suffisamment mécontents de la vie telle qu'elle était et ils avaient très peu d'espoir qu'elle puisse devenir meilleure. Alors pour eux, c'était la solution idéale. Moi, j'appelle ça échapper. Mais enfin, aussi facile, mais pour eux c'était la solution idéale jusqu'à un certain point, parce que il y a peut-être un pas de plus à faire. C'est un fait. Si l'on veut rester dans l'univers, il faut admettre le principe du progrès. Parce que c'est un univers de progrès. Si vous voulez réaliser une perfection statique, eh bien, vous serez forcément rejeté de l'univers. Parce que vous n'appartiendrez plus à son principe. C'est un choix. Seulement, Chobin nous disait souvent, les gens, quand ils choisissent comme ça, ils oublient qu'ils, du même coup, ils perdront la conscience avec laquelle ils pourraient se féliciter de leur choix. Ça, il l'oublie. Voilà.